Daniel Aslanian.
On entend plein de miam miam. Penchons-nous maintenant sur le seul restaurant de France où 30 espèces de tomates et 20 espèces de courges, où les clients excitent leurs papilles et élargissent leur palette de goûts. En 1989, vous revenez de Cambridge où vous avez réalisé votre thèse. Vous pensez y avoir perdu votre palais, car là-bas, la nourriture est exécrable, insipide, c'est un véritable enfer culinaire. Est-ce que là-bas, vous réalisez à quel point vous aimez cuisiner et comme cette passion peut vous manquer ?
Oui, alors juste une petite rectification, je ne suis pas si vieux, c'était en 97.
97, ok.
Non mais je sais, c'est un peu vieux.
Okay.
Oui et non. En fait, quand je suis parti à Cambridge, c'était pour mon travail, donc juste au dehors de Londres, je suis allé travailler là-bas dans un laboratoire, le Bullard Laboratoire, et j'étais tout seul. Ma compagne de l'époque était à qui est une amie maintenant était à Édimbourg, et donc j'étais tout seul et je voulais pas perdre la main, donc je cuisinais, je choisissais les produits les plus jolis. C'est difficile en Grande-Bretagne, c'est très difficile de trouver des bons produits. Les tomates viennent de Hollande, elles sont cuites pas mûres, les produits sont pas terrible. Et au bout de... J'y suis resté quand même 2 ans là-bas. C'était un purgatoire culinaire pour moi. Et je désespérais parce que j'avais l'impression que ce que je faisais n'avait plus de goût. Alors pour un cuisinier, avoir cette impression-là, c'est dramatique. Je vous assure que c'est dramatique. Ça m'est arrivé une deuxième fois où là, c'était quand j'ai eu mon premier cancer. J'ai perdu le goût. C'est le deuxième. J'ai perdu le goût et quand j'ai goûté les plats que je ne ressentais plus, j'avais les larmes aux yeux. Hein. Je ne savais pas reconnaître le sel du sucre, par exemple, à cette époque-là. Alors en Angleterre, c'est un petit peu ça. quand je suis revenu, alors pour vous expliquer exactement, j'étais en post-doc et on était plusieurs post-docs comme ça. Donc les post-doctorants, ce sont des gens qui ont fait leur thèse et qui vont partir à l'étranger pour travailler dans les labos, pour se confronter à d'autres chercheurs. Et on était plusieurs et on avait inventé, c'était Agnès Balzer, une collègue qui est maintenant à Nantes, qui avait inventé la confrérie, on est plein dans les confréries, la confrérie des amis de la jolie semaine du mois de mai. Alors, qu'est-ce qu'il y avait derrière ? C'est qu'on devait se retrouver tous les ans, une semaine, dans un pays, et celui qui était là-bas en post-doc devait tout organiser, y compris la découverte culinaire. Et moi, c'était à Cambridge, et je ne voyais pas inviter mes amis à Cambridge. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, je les ai invités dans le Périgord. Voilà. Et donc, on a fait une semaine dans le Périgord. C'était juste à la fin de mon post-doctorant. Et dans le Périgord, j'ai cuisiné matin, midi et soir du foie gras, de toutes les manières. Je me rappelle très, très bien les recettes que j'ai faites parce qu'ils voulaient visiter. Moi, je ne faisais que les marchés. J'ai cuisiné. Je voulais retrouver ma sensation. J'ai fait un lapin, un lièvre au mori. J'ai fait le canard gras truffé, vous savez, vous coupez la truffe, vous la glissez entre la peau et la chair pour qu'elle parfume. J'ai fait des coques au vin au cèpe. On a pris 5 kilos tous en 5 jours. Voilà. Et j'étais rassuré, j'avais retrouvé mon goût.
La cuisine attire du monde. Vous y avez invité beaucoup de vos connaissances. Jeune, vous aimiez y passer du temps. Et la vaisselle, vous nous l'avez dit, ne vous faisait pas peur, ni l'épluchage des légumes. Dans une ambiance de partage, toujours, la cuisine s'animait autour du plan de travail. Donc à votre retour de Cambridge aussi, l'idée d'ouvrir un restaurant germait déjà ?
Alors oui, mais pas de ce type-là. Alors oui et non. Je m'étais dit, peut-être que je vais arrêter la recherche, je vais peut-être monter un gîte, etc. J'ai commencé à chercher une maison pour établir, pour faire une table d'hôte, parce que j'avais remplacé des amis qui sont à Dole de Bretagne, qui ont une table d'hôte là-bas. Donc je m'étais dit, peut-être que je vais faire ça, ça m'amuse. Puis la recherche, quand même, ça me titille, c'est une passion. Donc j'ai recommencé à travailler 4 ans au chômage, à la recherche. La recherche est un chemin difficile. Mes étudiants qui sont là, au fond, là, ils peuvent en témoigner. j'étais pas prêt à quitter la recherche de suite. Et puis la cuisine, je vous l'ai dit, c'est une histoire d'amour. Alors, cuisiner pour d'autres personnes que mes amis, ça me paraissait difficile. ça me paraissait difficile parce que j'y mets beaucoup, beaucoup de cœur et j'aime connaître les gens. Il se trouve que j'étais à Ifremer et que je venais d'être embauché et je rencontrais des gens, dont ma compagne actuelle, Marina Rabineau, qui est chercheuse au CNRS. Et on se retrouve au café, à Salle Café, et j'ai cherché une maison pour habiter, pour acheter, et je tombe sur la maison du Minou. La maison du Minou, c'est le premier bar que j'ai visité quand je suis venu en 89 à Brest pour faire ma thèse. Et il m'avait marqué, ce bar. Donc j'avais envie d'être là-bas, mais il était un peu cher. Donc au café, je dis, c'est bête, hein, on serait plusieurs, on serait quatre, on pourrait l'acheter. Et là, il y a trois personnes qui m'ont dit chiche. Ah, et donc on a acheté cette maison à quatre. Et j'ai monté un système un petit peu compliqué. Donc il y avait une SCI qui avait le bâtiment. Et puis on louait au restaurant. Et je pensais que mon restaurant allait faire de l'argent pour pouvoir payer le loyer et payer les travaux, ce qui n'a jamais été le cas. Donc, mais je me suis dit, je vais ouvrir un restaurant. Et donc pour la première fois, j'ai invité 20 personnes. On a travaillé, donc il y avait tous mes collègues, Marina, Marilyn, et avec tous des chercheurs en Ifremer qui m'ont aidé, même des collègues du Maroc qui sont venus pour m'aider, des chercheurs aussi. Et on a construit ce restaurant de briques et de broc en peignant nous-mêmes. Alors j'avais en tête les maisons de chez Chaouine, je ne sais pas si vous connaissez ces maisons blanches avec du bleu qui pète derrière, et je voulais un petit peu cette lumière parce qu'on n'est pas beaucoup de lumière en Bretagne, en particulier dans les maisons de granit avec, j'ai quand même 70 cm de granit mes murs, donc il fallait qu'elles puissent rentrer. Donc j'ai peint ça comme ça, et c'est comme ça qu'on a commencé. J'ai fait mon premier repas où j'ai fait pour eux, je ne sais plus, 6 ou 7 soupes différentes, 6 ou 7 entrées différentes, plats et puis desserts, pour vous montrer ce que j'étais capable de faire. Et on a démarré comme ça. On a démarré avec un cuistot et puis nous au service. Enfin, moi qui apprenais au cuistot, ou travaillais avec mes cuistots, mes seconds. Et puis au service, Marina Rabineau et Marilyn Moulin, qui étant toutes les deux chercheuses, l'une à Ifremer et l'autre au CNRS, qui venaient travailler en plus entre midi et deux. Donc j'arrivais à mener du monde avec moi dans cette galère. En plus, tout ça a été financé par des amis qui sont mes amis chers, qui sont un peu partout dans France, et qui ont accepté de mettre un petit peu d'argent chacun pour lancer l'affaire. Voilà. En espérant jamais de revoir leur argent, j'espère en tout cas.
Mais justement, pendant les travaux de rénovation de la maison du Minou, le principe d'improvisation naissait un peu. Vous faites de la cuisine le midi pour donner de l'énergie, pour poursuivre les efforts un peu, et avec ce qui vous tombe sous la main. Aujourd'hui, vos clients qui poussent la porte de ce bon plan caché ne savent pas vraiment ce qu'ils vont manger, puisque les soirées où vous travaillez au mille et une lunes, vous improvisez un peu comme un musicien.
Oui, c'est exactement ça. Alors, le restaurant, quand je me rappelle, j'avais donné une interview sur Radio France, je ne sais plus laquelle, et ils étaient venus me voir parce que j'ouvrais, et donc j'avais fait cette déclaration sans appel. J'ai dit, quand je suis revenu de Cambridge, j'ai voulu manger des vraies tomates, et j'étais très déçu par la tomate française. Voilà.
Vous avez donc le goût pour l'improvisation et les contraintes. Oufipo vous a donné une contrainte sonore à partir de laquelle vous avez réalisé un plat. On va vous laisser écouter en fait la création que nous avons envoyée donc à notre invité. Ça s'appelle Sur la Lune. Ça a été monté par Martial Le Carour. Et ensuite, nous pourrons déguster sa création. C'est assez court. Écoutons.
Pour moi, c'est Camille. Alors voilà, on a construit une fusée. Avec mon petit frère. Là, je démarre la fusée. Et on est tous les deux avec et mon petit frère dans la fusée. On est parti. Attention, en 4, 3, 2, 1, parfait. On est parti. Ah, on a toutes les étoiles. Et on arrive à la lune. Attention, on va atterrir. On va ouvrir la porte de la fusée. Allez, viens, Baptiste, on descend, on sera à la lune.
Oui.
Oh, c'est quoi qui arrive là? C'est un extraterrestre. Tiens, j'ai une idée, on va lui donner un camembert. Ah, tu vois, il a l'air content, Baptiste. que papa nous appelle pour manger.
Allez, on descend.
Allez, on redescend sur la Terre. Au revoir, les extraterrestres. 4, 3, 2, 1, c'est reparti. Et on arrive sur la Terre.
Voilà, donc il faut se débrouiller avec ça quand on vous donne des contraintes. Vous faites le malin, vous voyez, vous faites le malin, vous dites allez, faites-moi une contrainte sonore, etc. Faites quelque chose,
c'est lui qui nous a demandé,
etc. Et voilà ce qu'il me donne. Alors j'étais parti au départ, ils m'ont donné ça, je suis parti à Lisbonne pour mon travail, donc j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit bon, Méliès. Il est arrivé Méliès. Méliès, dans ma tête, je voyais le premier film avec la fusée qui arrive dans l'œil. Ah, je voyais bien ça. Oui, ça, je voyais bien ça. Je voyais bien ça. Et puis, j'ai vu ma cuisine, mon restaurant en cendres. Enfin, pas tout à fait en cendres, en désordre en tout cas, puisqu'il a brûlé. Et donc, je me suis dit, je ne pourrais pas faire ça. Donc, je suis parti sur une autre idée. Voilà, je me suis rappelé le manuel de Castor Junior. Et je me suis rappelé comment j'aimais faire des bêtises, comme ces enfants-là. Et il y avait l'histoire du camembert qui me plaisait bien. Donc, je suis parti sur cette idée-là du camembert, de l'enfant qui fait des recettes avec tout ce qui lui passe sur la main. Voilà, je vous souhaite bon courage.
On va repasser une nouvelle fois.
Alors, cette expérience culinaire, ce gag, alors, est-ce que qui sait ce qu'il y a dedans? Ah, et effectivement, il y avait camembert chocolat. Alors? Ah, non, il n'y a pas tomate. Alors, il y a effectivement abricot moelleux, camembert abricot moelleux, effectivement. Et puis, il y en a un autre, c'est camembert et piment. Alors, c'est un piment que je ramène du Brésil quand je vais là-bas. Et c'est un piment qui n'est pas fort et qui a un goût assez fantastique. Voilà. Donc, je pense que le chocolat, je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps de goûter, hein, parce que j'ai fait ça juste pour vous cet après-midi. Je me suis dit que vous allez vous prêter à la plaisanterie avec moi. Donc. Ça s'appelle les cheveux d'ange. C'est avec ça qu'on fait des baklava. Normalement, ça doit être servi plus chou. Hein. Il s'est arrêté. Je parle trop, donc ça s'est arrêté. C'est plus croustillant, hein, parce que normalement, ça se fait au dernier moment dans du beurre, hein, du beurre clarifié. Le beurre clarifié, c'est le beurre dans lequel, vous savez, je vous dis ça à tous, hein, si vous voulez manger sain, prenez du beurre doux. Vous le faites fondre doucement, vous le laissez reposer, vous allez avoir le petit lait qui va monter, que vous enlevez, que vous gardez pour la pâtisserie, et la graisse qui reste, hein, toute jaune, ça, vous pouvez le monter jusqu'à 220 degrés, plus haut que toutes les huiles, et c'est beaucoup plus sain.